Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le rêve des amateurs de poésie, des admirateurs de Rimbaud, par exemple, c'est peut-être, même si cela est anecdotique, de découvrir une photo inédite de l'auteur des Illuminations. Cela est arrivé et, qui sait, cela peut arriver de nouveau. Rêve-t-il encore, et mieux, les amateurs de poésie, de découvrir un texte inédit de leur auteur préféré? Il y a quelques années, et à propos d'un poète du XXe siècle, une aventure littéraire a ensoleillé les amateurs et admirateurs d'un autre poète. Un inédit? Non. Un texte disparu et retrouvé, plus exactement. Poésie sur parole, diffusée pour la première fois sur France Culture le 8 février 1997. Poésie sur parole, Jean-Baptiste Parra. Blaise Cendrars et la légende de Novgorod. Notre magazine est aujourd'hui consacré à un événement très émouvant et inattendu, la récente découverte de la première œuvre de Blaise Cendrars, la légende de Novgorod. Il s'agit d'un long poème dont le texte semblait depuis toujours perdu. C'était une œuvre mythique, un livre fantôme. Nous avons seulement aujourd'hui la confirmation de son existence. La légende de Novgorod avait été publiée en Russie à 14 exemplaires en 1907. Pour en parler, je reçois ce soir Myriam Cendrars, Claude Leroy et Kirill Kadiski. En deuxième partie de l'émission, grâce à André Dussolier, nous entendrons pour la première fois sur les ondes la légende de Novgorod. Kirill Kadiski, vous êtes de passage à Paris, vous venez de Bulgarie, et c'est à vous que l'on doit l'étonnante découverte de la légende de Novgorod. Dans quelles circonstances avez-vous découvert ce livre ?
Quand j'ai trouvé ça, j'ai été frappé, je voudrais vous dire directement, parce que malgré que je ne suis pas un spécialiste de la poésie du XXe siècle, j'ai travaillé sur les traductions des poètes français du XIXe siècle, mais la poésie de Cendrars, de Apollinaire est connue pour moi, oui. Et quand j'ai vu ça, Frédéric Sauzet, j'ai
où l'avez-vous
idée,
vu?
Oui, dans une petite librairie de livres anciens, oui.
Et à Sofia.
À Sofia, oui, c'est ça. Chez un marchand de livres anciens qui m'a proposé beaucoup de livres. Il m'a demandé pour me montrer les autres livres. Par exemple, c'est un livre de Ivan Bunin. C'est une traduction chanson de Hiawatha de Henry Longfellow, poète américain, etc. Et quand j'ai vu ça, j'ai été presque frappé, oui, c'est ça, parce que j'ai eu une idée qui est Frédéric Sauzet, etc. Mais malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'informations de ce poème, parce que j'ai lu seulement que c'est le premier livre de Cendrars, ce nom, et par une nuit seulement, j'ai traduit ce poème.
Donc vous avez traduit ce poème du russe en bulgare immédiatement après l'avoir découvert.
Je me pressais à publier ça sans demander à Mme Cendrars parce que je n'ai pas aucun contact au même temps. Oui, et j'ai publié une plaquette avec la traduction bulgare et avec le texte facsimile, la langue russe avec une orthographie ancienne. et avec un texte langue russe avec une orthographie moderne.
Ce texte que vous avez découvert vient de paraître aux éditions Fata Morgana avec le fac-similé de l'édition russe de 1907 et une transcription française. Peut-être, Myriam Sandrard, pourriez-vous évoquer les circonstances dans lesquelles a été écrit et publié ce poème ?
C'est un poème, enfin un livre, un texte, disons, la légende de Novgorod qui figure donc sur les listes bibliographiques de Blaise Sandrard depuis toujours, enfin depuis la parution de Séquences en 1913, la légende de Novgorod figure en premier et elle subsiste jusqu'à la fin de sa vie. Donc, déjà, et dans son œuvre, il en parle plusieurs fois, il donne des indications.
Dès la prose du Transsibérien, on voit apparaître le vieux moine qui lui lisait la légende de Novgorod.
Oui, et puis on en retrouvera encore, parce qu'il y a beaucoup de recherches à faire, des traces dans toute l'œuvre de Sandrard. Cette légende de Novgorod a donc paru en 1907, d'après l'indication sur l'édition originale.
À Saint-Pétersbourg.
Saint-Pétersbourg, Moscou. Un éditeur, typographe, peut-être aussi diffuseur, qui s'appelle Sozonov. Toutes ces indications figuraient déjà dans les indications de Blaise. Nous les retrouvons donc exactes. Il en annonçait 14 exemplaires, ce qui laissait supposer que ce traducteur du français du jeune Freddy Sauzère en russe, qui est nommé R.R., qui est un inconnu mystérieux, a fait cela comme un geste d'amitié pour ce tout jeune poète auquel il croyait.
Donc il faut rappeler qu'en 1904, Frédéric Sauzère, futur Blaise Sandrard, avait 17 ans, il quittait la Suisse. En septembre, donc, il arrivait à Moscou. Il a travaillé dans une banque, puis chez un joaillier à Saint-Pétersbourg. Et il est revenu en Suisse en avril 1907.
Oui, il est revenu en Suisse en avril 1907, ayant quitté la Russie et une jeune fille, Hélène Kleinmann, nous avons même son nom de famille, dont il était très épris, il avait été très épris, et elle aussi, et une correspondance s'est établie entre les deux. Apparemment, de retour dans son milieu familial, de retour en Suisse, dans ses lettres, Freddy Sauzère semble prendre un peu de distance pour Hélène, qui, elle, attend évidemment une suite importante à cet amour. Et puis voilà qu'au mois de juin, brutalement, Freddy, qui s'appelle encore Fred, apprend que Hélène est morte, brûlée vive, dans un incendie qu'elle aurait elle-même provoqué.
C'est en apprenant la mort d'Hélène que Frédéric Sauzère, bouleversé par cette terrible nouvelle, écrit la légende de Novgorod. Le livre a été publié à 14 exemplaires et a ensuite disparu. Je voudrais vous demander, Claude Leroy, vous qui êtes un éminent spécialiste de Sandrard, ce que représente à vos yeux cette œuvre. On a le sentiment qu'elle contient en germe beaucoup de choses.
C'est un texte troublant, d'abord parce que pendant longtemps ça a été l'Arlésienne. C'était l'Arlésienne, un texte toujours déjà perdu, et à force d'être toujours déjà perdu, naturellement, beaucoup de lecteurs, et pour ne pas dire tous les lecteurs, ont eu de grands doutes quant à l'existence de ce texte, qui s'appelle Légende, Légende de Novgorod, et c'était Jacques Vacher, je crois, qui disait « Il est dans l'essence des légendes d'être légendaire ». Donc tout le monde s'est convaincu, ou à peu près, que ce texte-là, en tout cas, risquait fort d'être un texte mythique au sens d'imaginaire. Restait que tout de même ce texte-là était un texte constamment réinscrit par Sandrard pendant à peu près 50 ans, comme vient de le dire Myriam Sandrard. Donc en tête de ses bibliographies. C'était une obstination tout à fait remarquable. Pourquoi, effectivement, si le texte était en effet un texte purement fictif, pourquoi le réaffirmer à cette place, c'est-à-dire aux origines de l'œuvre, et même dans une période très particulière qui est celle de l'avant-pseudonyme. 1909, c'est la date que donnait Sandrart pour la parution de ce texte-là, hors commerce, c'est 3 ans avant le pseudonyme. Donc, littéralement, ça n'est pas la première œuvre de Blaise Sandrart, c'est une œuvre de celui qui n'était pas encore Blaise Sandrart. Il m'a toujours semblé, donc, dans l'attente, évidemment, de la découverte hypothétique un jour d'un exemplaire de ce texte-là, sur lequel d'ailleurs Sandrart donne des informations contradictoires, disant parfois que c'est un poème, parfois que c'est un roman, parfois que c'est une compilation de contes. Bon, donnant aussi des indications qui sont pour nous surprenantes maintenant devant l'exemplaire retrouvé, des indications sur le volume, 144 pages, alors que c'est loin de faire 144 pages, c'est en effet une plaquette et c'est un poème, ce qu'il ne dit jamais clairement. Ce qui m'a donc semblé à voir cette obstination de Sandrart, donc, c'est que ce texte-là avait quelque chose à voir avec les origines, disait quelque chose par une plaquette réelle ou par l'invention d'une plaquette imaginaire, donc disait quelque chose sur les origines de son nom et de son rapport à l'écriture. Et par toute une série de recoupements, il m'était apparu, si vous voulez, qu'on pouvait considérer que ce livre-là, réel ou imaginaire, avait quelque chose à voir avec cet événement. Lui-même effacé de la mémoire explicite de l'œuvre, cet événement donc traumatisant et capital pour lui, qui a été la mort d'Hélène brûlée vive, peut-être par suicide. Donc, entre la légende de Novgorod perdue et l'événement effacé, il me semblait qu'un lien était à nouer, à élucider, et pouvait confirmer dans cette voie le fait que les initiales de la légende de Novgorod, par un cryptonyme, et Sandrart aime beaucoup les cryptonymes, on le sait par ailleurs, sont L et N, donc Hélène, et que on pouvait imaginer que ce livre-là des origines du nom et de l'œuvre, ce livre-là des origines était lié à Hélène comme une sorte de dédicace secrète. Alors maintenant, nous avons effectivement la plaquette. Nous savons que c'est un poème, grâce à l'invention fabuleuse, tout à fait sandrartienne, l'invention au sens de l'archéologie, naturellement, de Kirill Kadisky, qui est effectivement un épisode sandrartien comme on n'aurait pas osé en imaginer. Nous savons donc que c'est une plaquette, que c'est en effet un poème, que ce poème, par bien des côtés, se présente comme une première version et des Pâques à New York et de la prose du Transsibérien, et ça remet évidemment en question beaucoup de ce qu'on croyait justement sur les origines. Alors les origines, les premiers travaux, les premiers textes de Sandrart lui-même. Il y a tout un travail alors d'insertion de ce texte dans le contexte effectivement biographique et d'écriture du jeune Sandrart qui reste à faire, qui est très troublant. Et c'est vrai, comme vous le disiez, que à lire la légende de Novgorod, on découvre, beaucoup d'annonces, en effet, de ce qui va suivre, notamment les deux grands poèmes qui viendront tout de même 5 ans et 6 ans après. Il y a là tout de même un intervalle étonnant. Hein. Que s'est-il passé entre-temps ?
Il est déjà question, d'ailleurs, dans la légende de Novgorod, d'un voyage en transsibérien avec une Jeanne.
Et on voit déjà apparaître Jeanne, effectivement. Oui, on voit apparaître Jeanne, on voit annoncer...
Hélène y est aussi.
Hélène, évidemment.
On m'a enlevé mon Hélène.
Oui, je dois dire que ma petite hypothèse sur le lien de ce texte-là avec Hélène se trouve effectivement, je crois, confirmée par cette présence d'Hélène au cœur du poème. On y voit donc apparaître déjà Jeanne, annoncer le Transsibérien. On y voit apparaître Rogovine, qui sera évoquée, du moins sa figure sera évoquée dans le Transsibérien, mais dont le nom, encore une fois, n'apparaît dans l'œuvre de Sandrart que dans Vol à voile, c'est-à-dire dans les années 30, au début des années 30. Bref, il y a une réévaluation de beaucoup d'éléments qu'on croyait acquis en ce qui concerne l'histoire de l'œuvre de Sandrart qui est tout à fait passionnante.
En ce temps-là seulement, j'étais un vrai poète. Quand on a 17 ans, comme dit Arthur Rimbaud, on n'a que poésie et amour en tête. C'était une même soirée suffocante. Les tilleuls saoulaient d'une odeur de bière de Munich. Et le vent assoupi goûtait l'écume des papillons autour des réverbères. Et les villas des Suisses respectables, en troupeaux de fringants moutons roses, descendaient à l'abreuvoir. Et moi, comme un somnambule, je descendais du cinquième étage le long de la gouttière. Moi, ce jour-là, je m'enfuyais de la maison de mon père. Je voulais m'engouffrer dans la vie de la poésie, et pour cela, il me fallait traverser la poésie de la vie. J'étais le Hollandais volant. Sous moi défilaient les époques et les destins, et les nuées de vaisseaux de la flotte hanséatique avaient peine à me suivre, et moi, je les attirais vers l'Orient, où nous attendait Novgorod. Royaume de l'or puant et des fourrures, que du pôle, venant des comptoirs et des isbas, des archers à face de Mongols nous apportaient, exigeant de la vodka en échange. Les plaines luisaient comme de l'hermine dans le soleil couchant, piquetées de corbeaux dans la neige fraîche. Je contemplais les neiges, et je vis comme en rêve des files de moines qui marchaient vers leur dieu de patience. Dans un très grand livre à la senteur de cire, j'ai lu son histoire. J'étais ce moine qui nasillait, penché sur ce livre, qui, de ses ailes jaunies et s'effeuillant, a survolé l'étendue des siècles et des royaumes pour nous convaincre tous que tour à tour disparaît et revient ce qui fait notre vie. Mais la vie sans fin demeure irrévocable. Ma plume grinçait et ma fièvre montait dans ma naïve poursuite de la gloire, et c'était moi sur la reliure d'or comme un prêtre dans l'ombre d'une église orthodoxe, et les mots que je laissais tomber étaient les billets rouges que je devais payer aux fournisseurs avant de lancer mes marchandises dans le monde.
Святый Бог, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Бог, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
Caressait la nuque souple des plus tendres beautés. De mes mains, je serrais le cou de 1000 marchands suants et vaniteux, et j'étais, moi, un puissant marchand, effleurant avec délicatesse les choses payées de mes deniers. Et pourtant, je n'ai même pas pu frôler une chair odorante et tendre et chaude, comme la neige, ni le creux si chaud aussi, tendre et soyeux vers lequel tendait mon vif animal. Dans le nord, où le ciel renversé comme un baquet inonde tout de lait, et sans doute jamais ne tarira la voie lactée, et où vogue la lune, motte de beurre frais, ce nord, y suis-je bien allé? Ah, ces nuits blanches de Saint-Pétersbourg, comme le halo blanc des champs dans ma mémoire. À minuit, on relevait les ponts, portes de pierre pour entrer au ciel ou sortir de l'enfer. Mais je me fichais bien alors de qui entrait ou sortait. Et ma mémoire aujourd'hui est comme la nuit blanche, car on a enlevé mon Hélène, et Troie est déjà réduite en cendres. En ce temps-là, j'étais un jeune homme de 17 ans et Novgorod m'accueillit avec ses hordes de maisons de bois, grâce auxquelles mes ennemis ont pu forcer la citadelle de mon amour invincible et ne laisser derrière eux que cendres, que cendres, que cendres. Qui a conçu l'idée stupide que la beauté est immortalité? Peut-on s'emparer de l'immortalité? Le soir, dès que les cloches s'envolaient au-dessus de la ville comme des diables pendus à l'arbre du ciel, je voyais les incendies futurs, et derrière eux, les hermines du rouge empire russe. Cendres froides, blanches de givre à petites tête noire. Et je me suis vu moi-même cendre après l'incendie des sentiments et de l'espoir. Éternel incendie, attisé par la porte à deux battants de la banque de Rostov où je travaillais dans un salon glacial et où j'avais toujours honte de lancer quelques sous de cuivre dans la sébille du pauvre et d'avoir l'air d'un millionnaire partant pour l'Angleterre, ici, à Saint-Pétersbourg, où l'orchestre tzigane avec ses balalaïkas, vous vide la raison comme avec un balai, et que soudain surgit un Rogojin qui jette des paquets de billets dans les bras de sa bien-aimée. Demain, quand ma Jeanne et moi nous prendrons le transsibérien, et que passé l'Oural, nos vivres seront épuisés, Rogovine, mon bienfaiteur, nous étourdira, s'occupant lui-même du train, en fournant des briques de roubles dans la gueule rouge de la locomotive, pour que nous allions toujours plus loin, et que nous puissions fuir ce qui nous attend tous, les riches comme les pauvres, au terme du chemin. Ah, ces fourrures russes! Combien en est-il passé entre les mains du Suisse? Tout Suisse pourrait me l'envier. Mais le poète aussi est un Suisse aux lourdes portes entre le paradis et l'enfer, pour que le bien ne puisse se muer en mal, pour que le mal soit à jamais contenu. Tout autour il faisait noir, comme dans l'âme d'un moujik. Dehors, le ciel humide et froid brillait de tous ses clous, comme si de quelqu'un fuyant les saletés de la vie on apercevait que le furtif scintillement de sa semelle dans la nuit. Sur le trottoir de bois, je marchais, longeant les entrepôts, les boutiques et les tavernes, comme sur une voie appienne bordée de tombeaux. Par cette nuit sans lune, je fus près de chuter, sans doute sur ta tombe ouverte. Oui, c'était bien ta tombe béante, ô Seigneur, car des étincelles aussi douloureuses ne pourraient jaillir des yeux de l'homme dans l'obscurité. Comme moi, tu travaillais dans le magasin du célèbre juif Leiba. Tes stigmates saignaient, tels des rubis sous le regard des visiteurs. Ils étaient nombreux, ceux dont tu ornais les oreilles et les doigts de pierres précieuses, ô Jésus, et tu parais les gorges nues de toutes les madeleines, toi qui avais chassé les marchands du temple d'un fouet impitoyable. Non, je ne veux pas toute ma vie acheter et vendre. Je vais vivre en aventurier, errant de par le monde aux frais des marchands. Je veux que le réel m'apparaisse un rêve et vivre dans le monde des visions. Cette année-là, les futaies en bordure des chemins furent abattues comme les grévistes de Gapone. Demain, quand nous prendrons la fuite dans le Transsibérien, la petite Jeanne et moi, vers Port Arthur, vers Carbine, vers les vagues de plomb de l'amour, où comme des rondins, les cadavres jaunes remontent toujours en surface, nous trouverons enfin le chemin qui mène à soi et à l'amour, ignorant que cet amour déborde d'émotions mortes. Car il n'est terre plus inconnue ni lieu plus attrayant que l'âme humaine. J'ai peur d'éclater en sanglots. Au-dessus de moi pend la lampe du wagon. Gluante de chiasse des mouches obsédantes, comme l'énorme morve d'un pitoyable voyageur. Durant des heures, je regarde la vitre nocturne embuée d'une sueur brûlante. Un cyprès solitaire, tout revêtu d'âcre poussière, regarde les fenêtres closes de la maison du père, comme le moine qui me suit depuis tant de lieues le long du chemin, toujours à mes côtés, pour me lire sans cesse des fragments de la légende de la nouvelle ville resplendissante, légende que peut-être je vous conterai un jour. Dans le ciel froid du nord, le soleil roule, paisible, soleil géant des Slaves, roue à rayons de bois qui restera toujours la cinquième du carrosse des peuples. Mon rêve, comme une lente cadence endormie, les bandes des vallées infinies sur la Russie vaincue. Et soudain, un poulain s'approche de plus en plus. 109 à travers la gaze des neiges.
Ainsi s'achève notre magazine. André Dussolier a dit la légende de Novgorod de Blaise Cendrars. Ce poème vient de paraître aux éditions Fata Morgana et je recevais pour en parler Myriam Cendrars, Claude Leroy et Kirill Kadiski. Mixage, Jean-Richard Dufour. Poésie sur parole, Jean-Baptiste Parra, Dominique Briffaut.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 8 février 1997. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.